Voilà, vous faites comme ça d'habitude, c'est en haut ou en bas d'habitude? Bon, d'accord. Allez, je m'adapte. Non, c'est bien, c'est parfait, c'est bon. Merci. Merci pour le verre d'eau aussi. Voilà, bonjour à chacun. Je ne sais pas si on a vu tout le monde. Tout à l'heure, on était un peu en avance. On a salué quelques personnes, mais pas tout le monde. Je suis heureux d'être là. Effectivement, on a un peu changé, mais on est toujours dans le Seigneur. C'est ça qui compte. Et je suis heureux de retrouver Cyril, Rosetta, de voir également l'œuvre de Dieu sur Arles. On a prié pendant des années les uns pour les autres. Et on bénit le Seigneur de ce qu'il fait avancer son œuvre. Amen. Je voudrais vous transmettre les salutations des frères et sœurs de la Seine et aussi de deux pasteurs qui sont avec nous. L'un ne peut plus venir, c'est Edouard Kowalski, mais on le visite régulièrement et il n'a pas perdu la foi, il est toujours dans le Seigneur. Et puis l'autre, c'est Bernard Bertolon qui est avec nous et ils font un tour pour aller le chercher les uns et les autres. Et dimanche dernier encore, il était là. Donc, il a loué le Seigneur, il a prophétisé. Voilà, il est plein de verve spirituelle, plein de fougue. Et on bénit le Seigneur d'avoir des anciens comme ça dans nos églises. Amen. Voilà. On va ce matin, sans plus tarder, ouvrir la parole du Seigneur. J'aimerais amener avec vous une réflexion. Une réflexion qui est venue sur mon cœur il y a quelque temps de ça. Je pense ne pas trahir la parole du Seigneur dans son ensemble. C'est quelque chose qui est vraiment venu sur mon cœur. C'est peut-être qu'on peut le mettre au niveau du titre. J'ai mis ce titre-là, ça vaut ce que ça vaut. Mais l'important, c'est de vivre l'expérience. C'est le lien qu'il peut y avoir entre notre obéissance, je parle de l'obéissance de la foi, et notre santé. On a dans notre église des personnes qui sont dans le milieu médical et on aborde régulièrement ce genre de choses. Et l'un de nos frères est médecin à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon. Et je partageais cela aussi avec lui. Je voudrais vous montrer quelques versets qui m'ont amené à cette réflexion. On lit ensemble dans le livre de l'Exode. Ce sont des textes que vous connaissez. Honore ton père et ta mère, mais c'est la suite, c'est le lien de cause à effet qui m'interpelle et qui m'a interpellé récemment, très récemment, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ce texte est repris en partie dans la lettre aux Éphésiens dans le Nouveau Testament. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Ce même lien se retrouve dans un autre passage. Dans le livre du Deutéronome, il est dit « Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'éphas, un grand et un petit. » Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste. Jusque-là, on est d'accord. C'est un commandement du Seigneur. Mais ce qui m'interpelle, c'est la suite. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est important de se souvenir de ce verset quand on fait notre déclaration d'impôt. Parce que vous pouvez gagner d'un côté et perdre de l'autre. Hein. Si vous gagnez 3 sous d'un côté et que vous perdez 10 ans de vie, c'est pas bon, hein. Donc faisons attention. Dans le psaume 61, il y a une prière. « Toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute, on peut faire cette prière, ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent à jamais. » On connaît l'histoire de ce roi qui a été touché par une maladie et qui est venu devant le mur pleurer et le Seigneur lui a octroyé 15 années supplémentaires. Car Dieu a tout pouvoir. Il est maître de toutes choses. J'ai remarqué également, en allant un peu plus loin dans la pensée, que dans le livre de Jérémie, il s'agit non plus de nous-mêmes, mais même de nos descendants. Dieu s'adresse à la famille, à la maison des Récabites. Au travers de Jérémie, il leur dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. » À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Même si ce n'est plus moi, que mes descendants vivent dans la présence de Dieu. Même si je ne le vois plus avec mes yeux humains, mais que ma famille continue de remplir le temple de la maison de l'Éternel, comme c'est important. Donc je repose cette question. Y aurait-il un lien entre notre attachement au Seigneur, notre obéissance de la foi et notre santé, j'ose même dire notre espérance de vie? Alors bien sûr, je voudrais tout de suite enlever toute dérive. Nous ne pouvons juger en aucun cas celui qui est malade ou celui qui est parti précipitamment. Nous avons eu dans la famille cette année des départs, et certains sont au courant ici, précipités. Mon propre frère est parti à l'âge de 57 ans cette année. Jamais nous ne nous permettrons de juger, de condamner. Nous avons la parole de Dieu, le monde, qu'un homme comme Job a été touché par une maladie, et même une série de maladies qui étaient le fait non pas de son abandon du Seigneur, loin de là, au contraire, mais d'une volonté propre, spécifique de Dieu pour sa vie, qui lui a été révélée ensuite en partie, que la Bible nous montre dans l'envers du décor. Nous ne pouvons pas juger le départ prématuré d'Étienne, un homme de Dieu remarquable, un témoin qui a été emporté dans la force de l'âge, parce que je le crois, Dieu avait quelque chose de meilleur pour lui. Mais il y a aussi dans le Nouveau Testament des textes qui devraient nous amener à réfléchir. Je voudrais vous montrer celui-ci. Il est quand même, pour moi, il fait l'effet d'une bombe. Quand Paul écrit aux Corinthiens, et il dit « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et il dit ce que je n'aurais jamais osé dire. Car c'est pour cela, sûrement c'est par révélation qu'il dit ça, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Il est fort ce texte. Quel est le pasteur du 21e siècle qui aurait osé dire cela? Qui? Et Paul est convaincu, il a reçu une révélation pour ces gens de Corinthe et il leur dit tout de go, c'est à cause de cela. Il y a un problème, il y a quelque chose. Alors, je veux le répéter, on ne pourra jamais, nous-mêmes, aller voir quelqu'un et puis lui affirmer comme ça. Ce serait tellement mal dit, mal fait, manquant de tact, manquant d'amour, manquant de discernement spirituel. Par contre, on pourrait se questionner les uns et les autres sur notre état. Quand j'ai fait quelques années d'études de mécanique marine, et je me rappelle de cette parole de mon professeur. Il me disait, lorsque le moteur est sur le banc, tu dois trouver la panne. Et il nous enseignait à déduire par nous-mêmes les différentes pannes possibles. Il faut que tu testes l'allumage. Il faut que tu testes ensuite la pompe à eau. Il faut que tu regardes le circuit de refroidissement, etc., etc. Et par déduction, les unes après les autres, dans une réflexion saine, nous arrivions à trouver. Il y a dans les églises que nous avons pu visiter et dans celles où nous servons le Seigneur, parfois des personnes qui vivent des états qui durent depuis longtemps. Et peut-être qu'on pourrait ensemble réfléchir. Alors le pasteur ne s'occupe pas de tout le reste, mais il peut parler des choses qui le concernent s'il s'agit de notre vie spirituelle. Et s'il y a un lien entre notre vie spirituelle et notre bien-être, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher ce matin. J'avais à cœur de vous dire, dites 33. Est-ce que vous pouvez dire 33? 33. Vous savez pourquoi on dit 33, hein? On pourrait dire tre-tre, c'est pareil. C'est simplement pour qu'il y ait une action, un vibrato particulière. 33. Est-ce que je souhaite être en bonne santé? Comme prospère l'état de mon âme? Pour faire ce diagnostic, je voudrais vous inviter à découvrir avec moi un livre extraordinaire de la parole du Seigneur. C'est le livre d'Osée. Au chapitre, on va lire quelques versets. Au chapitre 6, verset 4, il y a cette parole. Contrairement à ce que certains pensent, ce livre est teinté d'un amour du Seigneur merveilleux. Au chapitre 6, verset 4, c'est Dieu lui-même qui parle et il dit « Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Chapitre 7, verset 8. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Jusqu'au verset 11, Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte. Ils vont en Assyrie. On revient un peu en arrière au chapitre 4, verset 15. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven et ne jurez pas l'Éternel est vivant. Verset 17, Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. On va un peu plus loin au chapitre 11, on fait un peu de gymnastique. Chapitre 11, verset 8. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? On s'arrête là. Et au chapitre 14, merveilleux chapitre. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, ai-je affaire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Amen. J'aime beaucoup ce livre d'Osée et l'expérience qu'a vécu le prophète pour pouvoir délivrer ce message a été particulièrement douloureuse. Peut-être qu'on y fera un petit peu allusion. Ça a touché sa vie personnelle, ça a touché son foyer, ça a touché sa vie conjugale. Et tout cela pour nous montrer une réalité. Cette réalité, c'est qu'il nous est si facile de nous soustraire à la véritable communion avec le Seigneur. C'est hélas quelque chose de récurrent qui se retrouve dans toutes les générations. Et il en résulte, souvent imperceptiblement, sans qu'on s'en rende compte, une perte de notre équilibre spirituel personnel. Et si l'on n'y remédie pas, ou plutôt, alors on risque d'être entraîné par des effets désastreux. Il y a, dans la lettre aux Hébreux, il va s'afficher une prière qui monte à Dieu, qui laisse entrevoir une possibilité de restauration. J'aimerais la découvrir dans Hébreux, chapitre, je regarde le chapitre, chapitre 13, verset 20, si on peut l'afficher. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance nouvelle et éternelle, pardon, notre Seigneur Jésus, voilà, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On peut traduire ce verset de la façon suivante. Que le Dieu de paix restaure votre équilibre. Comme s'il y avait, chez les gens à qui il écrivent, un besoin d'être à nouveau restauré, réparé, pour fonctionner. Si un membre de notre corps se démet, rapidement il va falloir le remettre en place. Et nous allons tout faire pour que les forces vives de l'ensemble du corps puissent à nouveau gagner ce membre qui a été, pour un accident ou autre, atrophié ou déboîté de l'ensemble du corps. Sur le plan de notre relation avec le Seigneur, il faut parfois ce réajustement, le réajustement de cet ordre pour retrouver notre équilibre spirituel, pour assumer à nouveau nos véritables fonctions dans le corps de Christ. On en a besoin, peut-être plus régulièrement que ce qu'on le pense. Vous avez remarqué qu'on est fragile ? Moi, je dis parfois à l'être humain, il lui faut un rien pour que toute la mécanique si complexe, si belle, se dérègle en un instant. On voit dans la parole de Dieu qu'un homme comme Élie, à la nouvelle, à une seule nouvelle, a commencé à être déréglé. Il a fui, il a pris la fuite. Lorsque Jézabel a dit une parole, ça a complètement déstabilisé sa vie, lui qui était si fort, si puissant. L'objectif du message d'Osée, c'est peut-être le plus émouvant de tous les messages prophétiques de l'Ancien Testament. Il jaillit des profondeurs de sa vie et des profondeurs du Seigneur. Osée s'adressait essentiellement à la tribu d'Éphraïm, aux parties des tribus du Nord, et puis également à toute la nation. Et Osée va donner le diagnostic des causes du déclin spirituel d'Israël. Et le premier de ces choses qu'il met en avant, elle n'est peut-être pas facile à entendre, c'est la superficialité. Avez-vous remarqué comment le Seigneur parle ? Que te ferais-je, Éphraïm ? Que te ferais-je, Juda ? On a un Dieu qui est perplexe quant à ce qu'il va accomplir pour son peuple. Il pose lui-même des questions. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Êtes-vous d'accord que notre société aujourd'hui, notre monde est de plus en plus superficiel. On connaît plein de choses et on ne connaît pas en profondeur. On connaît plein de gens. On a des tas d'amis sur Internet qu'on ne voit jamais, qu'on ne côtoie pas peut-être réellement. Ce n'est que superficialité dans bien des domaines. Et cette tendance risque de contaminer également l'ensemble de nos relations avec Dieu. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Mais je m'aperçois qu'il est rare que nous donnions suffisamment de temps au Seigneur pour agir en profondeur dans notre vie. Oh, nous allons bien à l'église, nous fréquentons peut-être quelques heures par semaine et parmi les plus fidèles d'entre nous, il y a à l'heure active maximum une dizaine d'heures passées dans des réunions et des temps semblables. J'ai remarqué une chose. À chaque fois que nous avons eu des retraites spirituelles avec des églises ou des camps ou des jeunes ou des moins jeunes, nous avons vécu des temps extraordinaires. Chaque fois que nous avons laissé le Saint-Esprit travailler nos cœurs, je disais hier à quelques-uns que Dieu m'avait envoyé dans une ville où il s'est passé des choses terribles et dans cette ville on ne pouvait plus faire d'évangélisation. Alors on a dit avec quelques-uns on va jeûner et on va prier. Et je me rappelle d'un fameux week-end où on a dit on va jeûner et prier pendant tout le week-end. Alors, si vous êtes en état de santé précaire, évitez ce genre de choses. Et dans ma tête, même si j'avais organisé le week-end avec quelques-uns, quand même, je me disais, mais après le jeûne et prière, ou entre les jeûnes et prières, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez déjà posé cette question? Au bout d'un moment, on était à peine une dizaine. Hein, quand on aura écouté la sœur Intel prier 3 fois, que moi-même j'aurai prié 5 fois, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous assure, on a passé des réunions de plus de 6 heures, 7 heures, où on ne voyait plus le temps passer, parce qu'on a dépassé le chronos. On est rentré dans le kairos, le moment où le temps n'existe plus, des moments extraordinaires. Et il s'est passé, suite à ce week-end, des choses dans les cœurs d'une manière forte. Des choses se sont décantées. Une sœur qu'un pasteur ancien appelait sœur pessimiste. Il n'y en a pas à Arles, heureusement, hein. Mais je sais que ce frère l'appelait sœur pessimiste 20 ans avant que j'arrive. Alors vous voyez, quand je l'ai connue, ça n'avait pas trop changé. Mais quand elle a passé ce temps, je vous assure, elle avait un sourire. Elle avait une vie particulière. Ce qui tente à prouver que oui, effectivement, il nous manque cette profondeur. Nous la désirons, nous la recherchons, nous y aspirons les uns et les autres, et parfois nous en avons peur. Il en est de même avec le péché. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit œuvrer dans notre cœur jusqu'à créer la haine du péché. Il nous arrive de regretter. Il nous arrive de demander pardon au Seigneur. Et puis nous essayons de compenser avec nos bonnes résolutions en faisant l'économie de la repentance, en faisant l'économie du renoncement. Avez-vous remarqué que toutes ces résolutions sont souvent éphémères? J'ai pris des bonnes résolutions et ça a duré quelques jours. Souvent dans l'église, je vois des personnes qui viennent me dire à un moment donné, « Ça y est, pasteur, cette fois, on va raccrocher, on va venir !» Chaque fois, je me dis en moi, « Eh ben, attends de voir. Attends un petit peu et tu verras. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous admettons notre légèreté, notre culpabilité, mais nous ne traitons pas toujours le mal à la racine. Éphraïm est inconstant dans sa piété. Il pouvait avoir une piété qui ressemblait à un nuage. Vous savez, ce nuage matinal qui s'évapore comme la rosée dès que le soleil commence à apparaître. Il semble que cette inconstance d'Éphraïm posait un problème au Seigneur, qui lui-même dit « Que ferai-je ?» Vous savez, j'ai souvent été perplexe, je le suis encore, concernant des situations. Mais la Bible est pleine d'espoir. Et quand on voit ce que le Seigneur a vu dans la vie de Pierre dès le début, et on a de l'espoir les uns et les autres. Quand le Seigneur a vu Pierre pour la première fois, hein, vous connaissez cette parole, « Tu es Simon, tu es fragile, tu es faible, et moi je ferai de toi Céphas, je ferai de toi un rocher, un petit rocher, mais je ferai de toi une pierre. » Et il y a de l'espoir. Le Saint-Esprit peut changer la vie de quelqu'un d'instable en un véritable roc. Mais le problème était là. Second point qui existe et qui nous guette les uns et les autres, c'est celui d'une sanctification partielle. Dieu dit à Éphraïm, tu es comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Alors, il y a des années de ça, j'étais stagiaire à Salon de Provence. Je ne sais pas si certains étaient là ou ont vu ça. Et je me rappelle une des premières fois où on a fait un départ groupé pour un rassemblement d'église. Et je vivais dans le petit appartement au-dessus de l'église, s'il y en a qui ont connu ça. C'est un tout petit appartement. Et il y avait une gazinière. Et à l'époque, je ne savais pas trop bien cuisiner. Et j'ai dit, tiens, je vais faire un gâteau. Ça vous est arrivé peut-être? Et comme le temps passait et que je me disais, il faut vraiment qu'on y aille, et il faut que mon gâteau soit prêt. Alors le risque dans ces moments-là, c'est de dire, eh ben, je vais augmenter la température. J'ai dit, comme ça, il va cuire rapidement. Quelle folie! Quelle folie! Au bout d'un moment, le dessus de mon gâteau était noir comme le charbon. Alors j'ai voulu voir si à l'intérieur il était en bon état, si je puis dire. Hein. Et puis j'ai planté ma lame de couteau et j'ai planté, bien évidemment, il était visqueux en bas. Je ne pouvais pas proposer à mes frères et sœurs, pour cette agape fraternelle, ne le faites pas à midi s'il vous plaît, un gâteau qui est noir d'un côté et qui coule de l'autre. Non, ce n'était pas possible. Alors je me suis rabattu chez les frères et sœurs de l'église qui, eux, savaient beaucoup mieux faire les gâteaux que moi. Il y a une lame, c'est la parole du Seigneur. Et elle doit nous transpercer de temps en temps. Elle doit nous toucher pour voir s'il y a au fond de notre vie cette homogénéité. Si nous sommes à l'extérieur comme à l'intérieur. Le gâteau évoqué dans ce passage se cuisait sur un grill. On pouvait négliger de le retourner. Il brûlait alors d'un côté, il manquait de cuisson de l'autre. Et nous avons là une image, parfois de nos caractères, souvent surdéveloppés dans un domaine et retardés dans l'autre. Certains progrès sont très réjouissants, mais ils sont souvent neutralisés par de regrettables déficiences. À vrai dire, cette carence spirituelle peut nous guetter tous. J'ai remarqué avec les années que certains sont avancés dans une connaissance biblique remarquable, qui m'émerveille. Et on a tous dans nos églises ces frères et sœurs qui, si on se met à poser une question, sont les premiers à répondre, et peut-être mieux que le pasteur. Parfois, ils sont appauvris d'une expérience spirituelle de la grâce si faible. D'autres sont généreux de nature, prêts à donner pour l'œuvre de Dieu d'une manière remarquable. Mais ils ont parfois quelques violences de tempérament, de caractère, d'animosité qui les animent à certains moments. D'autres vont être rigoureux sur le plan de la doctrine, mais tellement pauvres dans l'expérience de l'amour chrétien. Je disais récemment, des fois c'est trop. Vous savez, on a des sujets que l'on aime par-dessus tout, et moi je les aime tous. J'aime parler du retour du Seigneur. J'aime parler de la sanctification, j'aime l'aspect géopolitique qu'il y a en ce moment concernant Israël et les événements. Mais parfois, et dans les membres de ma propre famille, je leur ai dit, mais c'est trop, c'est trop. J'aime prêcher la guérison, mais je ne supporte pas que l'on ne parle toujours que d'un sujet. Il y a un déséquilibre parfois dans nos vies. Nous souffrons d'un développement inégal, mais ne perdons pas courage. Parce que le grill continue de brûler. Si nous sommes toujours entre les mains du Seigneur, il est temps à chaque moment de retourner le gâteau, afin que le processus de cuisson puisse se poursuivre. Nous aurons toujours le feu de l'Esprit, la flamme qui pourra faire que nos traits de caractère demeurés déficients et impropres au royaume de Dieu puissent pleinement se sanctifier. Le Seigneur en a le pouvoir. Si on est sur le grill, alors on est toujours dans l'espoir. Il y a encore un danger, un dernier péril que je voudrais mentionner avec vous concernant Éphraïm. C'était celui d'une séparation incomplète. Chapitre 4, verset 17. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Chapitre 7, verset 8. Éphraïm se mêle avec les peuples. D'après vous, de quelle séparation est-il fait mention dans ce domaine-là? Tout d'abord, ce dont il n'est pas fait mention. Il n'est pas fait mention là d'une fausse séparation avec les gens de cette terre. Parfois, en nous convertissant, nous devenons extrémistes et nous nous séparons de tous les gens qui sont autour de nous. Quelle hérésie! Jamais Jésus a voulu cela. Lui que l'on décriait comme étant celui qui mange au milieu des pécheurs et des gens de mauvaise vie. J'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais vous auriez vu Jésus dans certains endroits, vous auriez été choqué. Et il y serait allé, non pas pour se corrompre, mais pour les amener au salut, à la foi. Jésus nous dit des chrétiens, vous êtes le sel de la terre. Et il ne me semble pas qu'il imagine le sel à côté de l'assiette et du plat. Mais il voit le sel parfaitement intégré, qui se dissout dans la société dans laquelle il se trouve. Je pensais également à une image toute simple. Vous avez tous fait cette illustration. Vous savez, quand le sel est dans un lieu un peu humide, la salière, qu'est-ce qui se passe? J'entends pas bien, en fait. J'entends shrum, 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 shrum. Hein? Ah, il s'agglomère. Et je me disais, ça n'engage que moi. Quand il n'y a pas suffisamment l'action du Saint-Esprit dans les églises, il y a des groupes. Ils s'agglomèrent entre eux au lieu de sortir à l'extérieur et de toucher la société. Et des fois, ça arrive. Mais Jésus ne propose pas ça. Mais pour Éphraïm, il y avait une séparation obligatoire à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Parce qu'Éphraïm devait se séparer de ses idoles, des nations païennes auxquelles il était trop attaché. Le Seigneur n'est pas en train de dire, ben continue. Vous savez, quand il est dit tout à l'heure, on l'a lu, j'espère que je le retrouve, laisse-le. Je ne crois pas qu'il y a une parole du Seigneur en disant, bon ben, continue de se mêler avec ce qu'il ne faut pas, mais ce n'est pas grave, je continuerai d'être avec lui, non. Non. Parce que la Bible montre en d'autres endroits que quand le Seigneur n'est plus avec quelqu'un, cette personne ne s'en rend pas toujours compte, mais qu'au bout d'un moment, il se sépare. Dieu n'allait pas abandonner Éphraïm, mais il va avertir Judas de ne pas suivre son exemple. Au chapitre 4, verset 15, que Judas ne se rende pas coupable. Si nous sommes comme ça, le danger, c'est la contamination des autres. Nous risquons, quand nous devenons tièdes ou froids, de toucher les gens qui sont autour de nous et de les rendre pareils. Dans le chapitre 7 des Hébreux, si on peut l'afficher, on pourrait le lire, tiens, ensemble, ce passage, avant de terminer. Je ne voudrais pas être trop long, quelques minutes encore. Chapitre 7, verset 26 des Hébreux, il y a un détail qui m'a profondément touché. Ce passage nous parle bien évidemment de notre souverain sacrificateur Jésus, de ce qu'il a accompli. Et nous sommes tous au bénéfice de cette œuvre. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, et dites-le avec moi, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Nous sommes heureux d'être sauvés, mais nous le sommes parce que Jésus s'est séparé des pécheurs. Et sans cette séparation, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Il fallait également considérer une détérioration inconsciente du peuple de Dieu. Chapitre 7, verset 9, « Des étrangers consument sa force. Il ne s'en doute pas, la vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. » Vous avez remarqué que les cheveux blancs ne préviennent pas quand ils viennent sur votre tête. Chaque nuit, il doit se passer quelque chose. Je commence à en avoir là. Et il n'y en a aucun qui m'avertit en me disant « Jean-Luc, fais attention ». Parce que dans 2 mois, ta tempe aura augmenté au niveau de la blancheur de 2 cm. Non, il n'y a rien qui est dit. Vous avez remarqué? C'est pareil pour vous. Les forces progressivement s'en vont de notre corps au niveau humain. Rares sont ceux qui blanchissent en une nuit. Et même le déclin spirituel est généralement inconscient. Savez-vous que les rétrogrades ne le deviennent pas du jour au lendemain, mais que leur vision spirituelle s'estompe doucement. Leur enthousiasme s'évanouit peu à peu. Et la mésalliance d'Éphraïm a été à l'origine de son déclin. Et avec le déclin, suit l'idolâtrie. Parce qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose. Quand on n'a plus le Seigneur, alors ils se sont raccrochés aux puissances de l'époque. D'un côté, la Syrie. Et de l'autre, l'Égypte. Les plus hautes technologies, les plus fortes civilisations de leur époque. Les choses ont commencé à diminuer. Et savez-vous la troisième des étapes? C'est l'immoralité, qui a pour corollaire l'affaiblissement de l'armature spirituelle de toute la nation d'Israël. Et pour nous peut-être de notre Église. Je crois qu'il y a des avertissements pour nous. Hein. Les symptômes de sénilité spirituelle peuvent apparaître dans notre vie. Il y a un phénomène, une loi de la thermodynamique qui s'appelle l'entropie. L'entropie qui amène toute chose vers son chaos et sa destruction. L'entropie spirituelle existe. Et elle amène, si nous n'y prenons pas garde, un éloignement du Seigneur, doucement, imperceptiblement. Éphraïm ne s'en doutait pas. Samson ne s'en doutait pas. La Bible dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, une ignorance fort regrettable dans des conditions dramatiques. Que faire pour se débarrasser des cheveux blancs? Quand j'étais dans un cours en particulier, je ne voudrais pas choquer personne, hein, mais on est entre nous, on avait un professeur qui avait une tonsure là, et il avait mis une petite moumoute. Et je me rappelle, chaque fois qu'il était devant nous, tout le monde était très gentil, comme ça. Et dès qu'il tournait le dos, il y avait tout le monde qui avait envie de lui enlever la moumoute. Je ne sais pas pourquoi, c'est naturel. C'est... Voilà. Vous avez remarqué que, là aussi je ne veux choquer personne, mais on utilise de la couleur. J'ai remarqué personnellement, pour les hommes, ça se voit tout de suite. Ils n'ont pas bien réussi encore le truc. Un jour, ils vont arriver à trouver une bonne couleur. Mais pour l'instant, c'est personnel, mais voilà. Ça existe. Donc, pour se débarrasser des cheveux blancs, la teinture est insuffisante. Il faut traiter à la racine. Et si je l'applique au niveau spirituel, c'est ça qui nous intéresse. Il ne faut pas mettre des masques. Il ne faut pas jouer la comédie. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas se jouer spirituel si on ne l'est plus. Comme le disait le don spirituel, si tu es desséché, alors reconnais-le, humilie-toi. Dieu ne va pas se contenter de diagnostiquer les maladies, mais il va prescrire dans ce passage un traitement adéquat. Ce traitement, il l'a proposé à Éphraïm, mais je voudrais en quelques minutes le découvrir avec vous. Parce que je crois que c'est le traitement de la restauration de tout notre être, y compris, je n'ai pas perdu mon sujet, la santé de notre corps, la santé de notre esprit et la santé de notre âme. Au chapitre 14, verset 2, il dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. » Une version anglaise dit « Enlève toutes nos iniquités. » Puis il appelle à renoncer aux alliances compromettantes. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux, il faut le dire. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu ». Dieu ne tolère rien qui dans nos vies occupe la place suprême qui lui revient. Et puis, finalement, il va inviter Éphraïm à se tourner vers lui. Et dans sa grâce, il y a le phénomène de restauration et de guérison. Je ne pourrai pas tout développer, mais Dieu le dit. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée. J'ai noté personnellement trois bénédictions spirituelles du chapitre 14 qui peut-être peuvent nous intéresser ce matin. La première se trouve là. Il s'agit au chapitre 14, verset 5, d'une nouvelle fraîcheur. Je pourrais dire une nouvelle santé. Ce sera la santé pour tes os. Une nouvelle vigueur spirituelle. Il n'y a plus d'allusion à la piété semblable à une rosée qui disparaît, mais à une autre rosée, celle du Seigneur. On le chantait, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Il y a des pays du monde où il ne peut y avoir aucune végétation parce que l'eau ne tombe pas du ciel. Elle n'est, on attend simplement la rosée du matin. Et si la rosée n'est pas là, tout est sec. Et tout est mort. Dieu promet une rosée, une source de bénédiction qui va couler chaque matin. Sans cette rosée spirituelle, la nature se meurt. Et sans cette rosée, mon cœur se meurt. La fraîcheur de la rosée va permettre un autre phénomène, l'arrivée de la floraison et du parfum. Le texte dit « Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban ». La fraîcheur et le parfum vont de pair. En temps de sécheresse, la fleur perd son parfum. Cependant, Dieu promet à Israël cette fraîcheur. Et dernier point, le parfum est une émanation délicate que l'on remarque dans la vie des êtres humains. Je me souvenais de ce verset, et moi il me touche toujours, quand il est dit dans le livre des Actes, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il n'y avait pas un t-shirt, il n'y avait rien qui montrait qu'ils étaient à Jésus. Mais quand on les voyait, il y avait un parfum. Il y avait quelque chose. Paul dit aux Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. En effet, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et même parmi ceux qui périssent. » La fraîcheur, le parfum. Mais ils ne sont que les débuts de la récolte. La récolte est effective quand à la fin de la floraison vient le fruit et que le fruit arrive à maturité et que l'on peut enfin un jour recueillir le fruit. Et j'aime beaucoup la fin lorsqu'il est dit « c'est de moi que tu recevras ton fruit ». Et si ce matin, la sève coulait en moi à nouveau, si la branche est cassée, on peut à nouveau l'enter sur l'arbre. Si on s'est desséché, éloigné, on peut à nouveau être greffé au Seigneur. Et puis, ce matin, la sève peut couler en moi et me donner de porter du fruit. Une branche cassée, détachée du tronc, ne peut amener aucun fruit à la maturité. Le croyant en rupture de communion avec Dieu ne peut porter le fruit de l'Esprit. Mais s'il est greffé à nouveau à l'arbre qui est le Seigneur, moi je crois que même au niveau de mon corps, de mon esprit, il y a quelque chose qui se passe. On pourrait fermer nos yeux quelques instants. J'espère que s'il y a quelqu'un qui est touché par une souffrance ou une maladie, vous n'avez pas perçu ça dans le mauvais sens. Loin de moi l'idée d'un déséquilibre quelconque par rapport à ce domaine, au contraire. Mais peut-être juste donner une parole de foi. Et si ce matin, en me reconnectant au Seigneur profondément, en vivant l'obéissance de la foi, est-ce que ce n'est pas possible que sa vie coule en moi et qu'il donne la guérison à mon corps, à mon âme et à mon esprit? Je voudrais rappeler ces versets. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient heureux, que tes jours se prolongent sur la terre. Aie un effet juste, un poids juste. Sois vrai dans les affaires. Sois juste. Et même si ce n'est pas toi, tes descendants seront toujours dans la maison du Seigneur. Moi, c'est une promesse que je te fais, dit le Seigneur. Je te reprendrai quand je le voudrai. Il nous reprendra chacun quand il le voudra. Et nous n'avons pas de crainte parce que nous savons ce qu'il y a de mieux avec le Seigneur. Mais en l'occurrence, sur cette terre, permets-moi, Seigneur, d'être en bonne santé spirituelle, d'apporter la bénédiction dans mon Église, que nous ressemblions à un peuple qui a été restauré par le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous louons ton nom. C'est un vrai bonheur d'être devant toi, et nous sommes touchés par l'amour qui est mentionné dans ta parole. Seigneur, tu as eu tant d'interrogations nous concernant lorsque tu nous vois errer, lorsque tu nous vois vagabonder, lorsque tu nous vois vivre des choses insensées, lorsque nous détournons nos regards de toi et que nous nous centrons vers la Syrie, lorsque nous regardons ces puissances humaines capables de nous sauver, nous nous rendons compte qu'elles ne pourront jamais rien. Mais lorsque nous tournons les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Lorsque nous regardons à toi, Seigneur, nous reprenons la force de vivre, comme le dit ce cantique que nous chantons quelquefois. Permets que ta sève coule ce matin, qu'elle descende dans les cœurs simplement et qu'il y ait une grâce particulière qui vient de toi. Viens Jésus, tu es le réparateur des brèches. Viens, tu es celui qui restaure l'âme, le corps et l'esprit. Alors fais-le dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces choses. Nous voulons les garder, Seigneur, dans notre cœur. Seigneur, nous voulons vraiment que tu fasses ton œuvre en nous. À toi la gloire, Seigneur. Bénis la suite de cette journée, Seigneur, et vraiment que tu nous aides, Seigneur, encore. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce à notre égard. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez ces choses dans notre cœur. C'est entre nous et Dieu après. Gloire à Dieu. Voilà. On se donne rendez-vous à 15h. Allez, que Dieu vous bénisse.